Et ce soir, je voudrais vous parler, à travers ce message, de la pensée de Dieu qui veut nous ramener dans ces temps à des choses simples. Ces temps sont des temps qui vont voir la puissance de Dieu, moi je le crois, être libéré comme jamais auparavant. Qui est-ce qui le croit? C'est pour ça que j'ai signé de toute façon, hein? Ils sont aussi des temps de réforme. On va devoir réformer plusieurs choses, plusieurs enseignements, plusieurs méthodes, notre état d'esprit. Et cela non pour compliquer, mais pour simplifier beaucoup de choses que l'on a justement compliquées ces dernières années. Ces temps vont être de plus en plus marqués par un retour aux choses simples. Par choses simples, je ne veux pas dire des choses sans profondeur ou des choses naïves. Je crois que Dieu veut nous rendre plus simples, ça ne veut pas dire simplé, hein. Pour que Dieu puisse manifester sa puissance, il n'a pas besoin qu'on lui complique la vie par tout un ensemble de formes et d'enseignements lourdingues auxquels nous sommes de plus en plus confrontés dans nos milieux évangéliques. Pour pouvoir être guéri, délivré, prospéré, on va nous dire, il faut faire telle chose, mais aussi telle autre. Et puis après avoir fait tout ça, ça marche pas parce qu'il fallait encore faire celle-là. Sans oublier cette nouvelle qu'on a entendue, tel nouveau prédicateur à la mode, enseigner dernièrement. Et la bénédiction n'a jamais semblé être aussi difficile et compliquée à saisir. Il semble d'ailleurs que plus c'est compliqué, moins il y a de résultats. Et lorsque l'Église est en manque de puissance, elle essaie de compenser par un ensemble d'enseignements compliqués. Ce peut être vis-à-vis de la manière de se repentir, la manière de chasser les démons, la manière de louer, la manière d'être guéri dans son cœur, la manière d'avoir la foi. Et le Seigneur veut nous ramener dans ces temps à plus de simplicité agrémentée de plus de foi, plutôt que d'avoir beaucoup de choses compliquées avec peu de foi. Une prière que je me suis mise à faire dernièrement, c'est « Seigneur, simplifie-nous la vie ». Je me suis rendu compte qu'il valait mieux prier dans le sens « Seigneur, aide-moi à me simplifier la vie. Et aide-moi à la simplifier aux autres. » Tant de chrétiens sont devenus compliqués. Et non seulement ils compliquent la vie, mais ils la compliquent aux autres. Ils usent souvent des livres, entendent des enseignements qui, bien que supposés les aider, la leur compliquent encore plus. Lorsqu'on a démarré nos séminaires, un peu partout en France, le Seigneur, il m'a dit de lui laisser plus de place. Alors, j'ai essayé de comprendre ce que voulait me dire le Saint-Esprit. Il m'a dit de lui donner l'occasion de se prouver. Pour cela, d'éviter que nous prenions, nous, trop de place, avec des formes héritées, soit de la vague passée, soit de nos habitudes et traditions. Et j'ai donc demandé aux équipiers de prière d'éviter d'être lourds, longs, de faire de l'introspection, des discours, des prophéties à deux balles quand ils prient, de chasser des démons de tous les côtés. Pour les raisons suivantes, c'est que nous comptons sur Dieu et sa puissance, et nous voulons permettre à cette puissance de se manifester. Pour cela, il faut être dans la confiance, la paix, et ne pas essayer de faire le travail à la place de Dieu. C'est comme ces personnes qui parfois prient pour vous, et elles veulent tellement vous faire tomber qu'elles sont prêtes à vous faire une prise de judo. Et puis ces autres qui veulent tellement vous donner une parole de connaissance que même quand il n'y a pas une révélation de connaissance, elles trouvent quelque chose à dire. Et elles mettent votre vie en péril, comme l'a mentionné Michael cet après-midi. D'autres encore crient tellement fort après les démons qu'ils font fuir tout le monde sauf les démons. Non, il faut passer à autre chose. À autre chose, bien, par rapport aux connaissances que l'on avait hier et à celles qu'on a aujourd'hui. On est supposé savoir plus, amen. Dans la fin des temps, un merveilleux verset dans Daniel dit « La connaissance augmentera ». Qui dit la connaissance qui augmente? La foi augmente parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce que Dieu a toléré hier, il ne va pas le tolérer aujourd'hui parce que je suis supposé savoir plus que les revivalistes d'hier. Donc je ne suis pas là pour refaire Azusa Street, je ne suis pas là pour refaire les réveils de Finet, je suis là pour l'onction du jour. Parce que plus de connaissances engendre une foi plus forte, plus précise et donc plus efficace. Passer à autre chose aussi par rapport à ce que l'on a vu qui ne marche pas. Il ne faut pas insister et ne pas hésiter à changer les formes à autre chose, car Dieu ne fait pas les choses exactement de la même façon pour chaque génération ou époque. Ce qui était bon hier ne l'est plus obligatoirement aujourd'hui. Même ce qui était bon il y a 10 ans, il y avait des formules il y a 10 ans, on descendait dans les rues, on faisait des choses super, aujourd'hui je me sentirais idiot. Par revenir aux choses simples, j'entends revenir à ce que le Nouveau Testament enseigne aussi, au lieu d'avoir souvent recours à des méthodes de l'Ancien Testament qui concernaient une alliance bien inférieure à la Nouvelle. Ce qui fait une grande différence d'ailleurs entre l'Ancien et le Nouveau Testament, comme on l'avait vu dans un message dernièrement ici, c'est qu'une partie du culte rendu à Dieu sous l'Ancienne Alliance était bâtie sur la systématisation. On devait rechercher Dieu d'une certaine manière, tout le monde devait suivre cette manière, aller au temple, offrir des sacrifices, faire des ablutions, etc. Et ces formes systématiques s'exprimaient à travers des méthodes bien réglées. On peut dire que le culte était bâti sur la systématisation et la méthodologie. Et sous la Nouvelle Alliance, ce principe de systématisation et de méthode, il vole en éclats. Parce que le nouveau principe par excellence, c'est d'être conduit par l'Esprit. La direction qui t'a donnée hier, si tu veux la reproduire aujourd'hui, elle est périmée. Donc, tu ne peux pas chercher Dieu pour la semaine. Tu dois chercher Dieu pour tous les jours. D'ailleurs, moi j'ai un diable qui m'attaque tous les jours. Le vôtre, il vous attaque tous les 15 jours? Moi, il m'attaque tous les jours. Alors, j'ai besoin d'un Dieu qui me parle tous les jours. Et j'ai besoin de l'entendre tous les jours. Il est plus gentil qu'à Toulon, le diable, à Nice. Il est aussi méchant, hein? Aussi vicieux. Donc, il attaque tous les jours à Nice aussi, hein? Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce qu'a montré Jésus à travers son ministère, il a guéri et délivré de diverses manières, des plus classiques aux plus bizarres, de l'imposition des mains à la boue, au crachat, passant par la parole aussi, par sa tunique remplie de l'onction, qu'une femme a touchée pour être guérie, sans se laisser coincer par quelques règles intransigeantes. Il a chassé les démons de diverses manières aussi. Il pouvait leur commander de sortir dans un cas, réclamer leur nom dans un autre, déclarer qu'ils étaient déjà sortis dans un autre encore. À la vue de la simple foi de la personne qui se trouvait devant lui. Donc on peut constater qu'on s'est laissé souvent dans nos assemblées reprendre par le principe de la systématisation et des méthodes. Nos cultes suivent dimanche après dimanche les mêmes formes, le même ordre. Nos manières de prier, d'intercéder, de chanter, de chasser les démons peut-être, de nous repentir peut-être aussi, suivent presque toujours le même schéma. Et là-dessus viennent se greffer un ensemble d'enseignements en méthode destinés à nous faire, ou à faire de nous le parfait gagneur d'âme, le parfait chasseur de démons, le parfait intercesseur, le parfait curateur d'âme. Ça vient de sortir comme ça. Et on se retrouve enfermé dans des schémas qui sont des prisons de préceptes sans fin. Chacune de ces choses, et chacune de ces formes peuvent être bonnes occasionnellement, mais deviennent des erreurs lorsqu'elles deviennent des règles absolues. Elles nous replacent alors sous un joug oppressant, et c'est le résultat inverse de celui recherché qui se passe. Et tant de gens deviennent pires, par exemple, après qu'on les a soi-disant aidés et délivrés. Donc nous sommes appelés à casser le moule. L'Écriture nous montre à travers le ministère de Jésus un désir de Dieu de casser le moule. Revenez aux évangiles. Alléluia. Régulièrement, on s'éloigne des évangiles, mais il faut revenir régulièrement et voir Jésus parce que à travers la personne de Jésus, on apprend à connaître le Père et comment le Père y s'y prend. Par exemple, la tradition, à l'époque de Jésus, un peu à la musulmane, voulait qu'un homme ne parle pas aux femmes. Et Jésus parle à la femme samaritaine qu'il rencontre près du puits et fait d'elle un instrument de réveil pour toute une ville. Si bien que ses disciples trouvent cela étrange parce que ça se faisait pas. Et c'est comme si Jésus dit, mais je n'ai rien à cirer que ça ne se fait pas. Et peut-être vous êtes là ce soir, vous êtes venu depuis hier soir dans ce séminaire, et vous dites, mais c'est étrange, ça ne se fait pas chez moi ça. Mais tu n'es pas chez toi déjà. Et puis il faut être surpris de plus en plus, alléluia. Surpris par Dieu, par l'onction du jour. Quand on cesse d'être surpris par Dieu, c'est plus très intéressant de venir à l'église. C'est plus intéressant même de le servir. Ensuite, ce Messie que tous attendaient glorieux, il vient comme un simple homme et il meurt comme un vulgaire brigand. Là aussi, le moule était cassé par rapport à ce qu'on attendait. On attend un Messie glorieux et on a un Messie méprisé. Dieu a voulu casser le moule. D'ailleurs, dès le début, il fait naître le Messie d'une vierge. Humainement, une vierge n'est pas supposée avoir un enfant. Alors, si bien que son mari Joseph s'est posé de sérieuses questions. Vu de l'extérieur, il faut se mettre à sa place. Le gars s'apprêtait à confusion. Donc si Dieu il veut qu'on se fonde dans le moule, pourquoi il ne nous a pas donné l'exemple? Plus tard, il continue à casser le moule des habitudes anciennes testamentaires. Pierre a une vision dans laquelle il doit tuer et manger les animaux auparavant interdits, qu'il n'a jamais touchés. Et Dieu veut bien nous dire, là, quelque chose comme ça ne doit plus se passer comme avant. On passe à autre chose. Est-ce qu'on saisit ce message? Nous qui pensons souvent que la vie chrétienne... c'est surtout tout faire pour ne pas choquer. Eh bien, pourquoi Dieu ne nous a pas montré l'exemple? Je crois que beaucoup de ces chrétiens qui se scandalisent de tout utilisent cette excuse de ne pas choquer pour cacher leur propre lâcheté, de ne pas oser. Ne pas oser être à contre-courant, ne pas oser être original, ne pas oser obéir à Dieu, tout simplement. Et Dieu, il a fait tout le contraire, il a malmené Jésus, les pharisiens, il a voulu briser à la fois l'esprit de la lettre et l'esprit pharisien. Et le pharisien qui dort en nous est régulièrement dérangé par pas mal de choses. Rappelez-vous, les préceptes humains et divins ne font pas bon ménage. Matthieu 15, 9, c'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Nous avons parlé ailleurs de l'importance de réaliser que ces temps vont être marqués par des réformes importantes au sein du christianisme. Et réformer, c'est obligatoirement changer les formes. Et pour changer les formes, quand Dieu nous demande de le faire, il faut être malléable entre ses mains. N'est-il pas fait d'ailleurs une comparaison entre Dieu et son peuple, au potier et son argile ? Esaïe 64, 8, « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Allez, vas-y Seigneur, travaille l'argile. Ce n'est pas lui qui doit changer à notre contact. Nous ne devons pas lui demander de bénir nos plans ou de changer ses plans pour qu'il case avec nos plans. Nous voulons comprendre quels sont ses plans et éventuellement changer tous nos plans s'ils ne correspondent pas à ses plans. Et je le dis souvent, j'ai une bonne nouvelle pour chacun de nous, ses plans, ils sont déjà bénis. Il n'y a pas besoin de jeûner 40 jours pour qu'il nous bénisse dans ses plans. Même s'il y a des combats, alléluia, mais au moins il y a des victoires. On peut s'épuiser par contre hors du plan de Dieu. Je dirais même que nous sommes appelés à être démontables. C'est-à-dire que nous devons avoir une capacité à laisser Dieu faire ce qu'il veut avec nous, comme il veut, quand il veut, au lieu d'essayer de faire de Dieu ce que nous voulons. C'est ce qu'on a fait dans notre assemblée, parce que nous on avait cette directive, c'est pas ce que doivent faire toutes les assemblées, mais on peut dire qu'on a littéralement démonté spirituellement et matériellement toute l'assemblée. On a stocké les trois quarts des affaires matérielles dans des garages qui sont derrière chez moi. Amen. On est une assemblée démontable, mais on va remonter. Dieu nous demande toujours de démonter pour remonter, alléluia. Et régulièrement, il faut démonter sa vie pour la remonter. Il faut démonter son ministère pour le remonter, sinon il rouille. Il faut démonter son couple parfois. Discuter avec sa femme, chérie, qu'est-ce qui ne te plaît pas chez moi? Ça, oh, j'aurais mieux fait de ne pas te poser la question. On démonte et après on remonte, alléluia, pour rester frais. Il faut oser. Regardez le tabernacle dans le désert. Il était démontable. Il permettait de bouger. Parfois, les Hébreux, sur l'ordre du Seigneur, restaient des semaines au même endroit. Et puis, ils repartaient quand le Seigneur disait de repartir. Et puis, d'autres fois, ils montaient tout pour la journée. Ils passaient la nuit. Et le lendemain, le Seigneur, il disait, on repart. Tu avais intérêt de ne pas être coincé par les formes. Certains d'entre vous, vous n'avez pas démonté votre vie depuis trop longtemps. Et ça rouille. Allez-y, n'ayez pas peur. Quand on démonte un fusil, c'est pour le nettoyer et le rendre plus performant. C'est pas pour le laisser démonter. Tout soldat sait que c'est nécessaire de démonter régulièrement son arme s'il ne veut pas qu'elle s'enraye au moment de tirer ou lui pète un jour dans la figure. Ayez une église démontable, un ministère démontable, des projets démontables, une mentalité démontable, et même une doctrine démontable. Parce qu'on doit évoluer, même dans ce qu'on prêche et dans ce qu'on croit. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, eh bien, rafraîchissez votre connaissance. Alors changer les formes, ce n'est pas toujours les compliquer. Loin de là, c'est souvent les simplifier. Élargir l'espace de sa tente, c'est parfois retrécir extérieurement la tente pour mieux l'élargir intérieurement. C'est ainsi qu'il en est pour certains enseignements compliqués. On doit les décompliquer pour avoir plus de résultats. On peut devenir plus simple dans nos relations, par exemple, pardonner plus facilement. Dieu est plein de compassion, il est plein de miséricorde. Qu'est-ce qu'on se prend la tête à avoir besoin d'être rancunier ? Si on est trop compliqué, c'est qu'on n'a pas démonté une partie de nous depuis longtemps, elle a rouillé. Si on a du mal à donner facilement le pardon. Mais si l'Esprit de Dieu vit en nous, les attributs de Dieu vont se manifester de plus en plus naturellement. Et Dieu, il est plein de compassion, il est plein de miséricorde. Entrons dans ces temps où on passe à autre chose. Puis en se décompliquant la vie, et tout en voyant plus de fruits, parce que c'est ça l'idée. On veut être biblique, n'est-ce pas? Eh bien, revenons à l'exemple par excellence, Jésus. Il avait beaucoup de résultats sans, si je peux dire, forcer. Ben, ah oui, il passait du temps dans la prière, il passait du temps dans les jeûnes, il se levait la nuit, mais au moment d'exercer le ministère, il ne devait pas imposer les mains à la personne. Oh, que ce mal de tête s'en aille! Ça y est, c'est parti, non? Oh! Des fois, le gars, il a encore plus mal après que t'as prié qu'avant. Et c'est lui que nous voulons prendre comme exemple pour comprendre les démarches simples auxquelles nous devons revenir. Je vous donne une parole. Revenez à lire les évangiles pendant quelque temps. Tout simplement. Regardons quelques points. On voit Jésus agir d'une manière qui ne correspond pas toujours à nos habitudes vis-à-vis de la repentance. Pierre, convaincu de péché après la pêche miraculeuse, tombe dans la barque au genou du Seigneur. Il est là, il est misérable. Et Jésus lui dit, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'homme. Ah oui, Jésus, tu vas pas trop vite là? Jésus ne reste pas là à regarder Pierre dans le genre, tu vois, tu es pécheur misérable. Non, cet élan de repentance, il lui suffit. Comme disait Michael, il lui fait pas suivre les cours du soir pendant 6 mois pour le baptiser. Il passe déjà à l'étape suivante. Hop, tu seras pécheur d'homme. Je me mets un peu à la place de Pierre. Vous savez, s'il avait été enseigné de manière un peu évangélique, et Jésus, t'as pas vu que je me repens là? Laisse-moi un peu le temps au moins de me traîner par terre. Jésus, il parle déjà de sa destinée. D'où la remise en question de la forme de certains appels classiques où on attend des gens qui se concentrent, prient, demandent audiblement pardon, et occasionnellement, il n'y a pas de problème, hein. Pleurent, on leur fait réciter une prière. Et Jésus, il n'est pas si compliqué. Et on voit aussi qu'il ne donne pas au péché une importance démesurée. Il noie le péché dans la grâce. Et dans l'importance de la destinée qui est dans la vie des gens. Amen. Il n'est pas là, d'un coup, il voit Pierre à genoux, il démarre une prédication sur le péché. Tu te sens mal, hein? Tu te sens sale, hein? Dis-le que tu te sens sale. Maintenant, tu vas... Ah non! Ah, je ferai de toi quelqu'un qui va pécher les hommes. Tu vas faire des prodiges de laine, c'est super. Moi, j'aime bien Jésus. Ça change de tous ces prédicateurs et chrétiens qui ne parlent que du péché. Le péché. T'as l'impression que le gars, il a vraiment un problème avec le péché, il sait plus comment juguler ses propres démons, hein, comme les gars qui parlent toujours contre les femmes ceci, les femmes cela. Vous apercevrez que c'est toujours des gens qui ont un problème avec les femmes. Ils répercutent leurs propres problèmes sur les autres. Règle-le ton problème et fous-nous la paix. Et fous la paix aux femmes. Hein. Alors l'idée n'est pas de nier le péché et son pouvoir, mais de le remettre à sa juste place au-dessous de la grâce. Deuxième point. On imagine parfois que pour chasser un démon, il faut toujours commander au démon de sortir, ce qui peut être nécessaire selon la situation. Or, face à la femme grecque syrophénicienne d'origine, qu'il a implorée au sujet de sa fille, en voyant la persévérance et la foi de cette femme, Jésus, il a seulement parlé. Il lui dit, à cause de cette parole, « Va, le démon est sorti de ta fille. » Et là aussi, j'imagine la femme, « Attends, non, moi, on m'a dit, tu peux pas commander, tu peux pas faire un truc, là ?» On peut se mettre là en prière, on se tient les mains et on dit « Démon, sors !» Il n'a même pas fait ça. Et parfois, c'est bien de le faire. Hein. Une simple déclaration qui fait que la délivrance s'opère, hop, c'est comme s'il ne prend pas le diable au sérieux. Le diable, il aime qu'on le prenne au sérieux. Vous savez, le diable m'a poursuivi toute la semaine, disait une sœur. Une autre disait « Le diable m'a encore caché mon torchon. » Et notre disait, priez pour moi pour chasser l'esprit de Carrie. Et la personne à qui elle a parlé lui a répondu, j'ai une parole pour vous, lave-toi plus souvent les dents, dit le Seigneur. Il va falloir que nos paroles aient plus de poids. Peu de paroles pour plus d'efficacité, au lieu de beaucoup de paroles pour pas grand-chose. Alléluia. Retour aux choses simples. Un troisième point, la guérison. La femme atteinte d'une perte de sang, liée par Satan, d'après les paroles de Jésus, elle a été guérie de la façon suivante. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa une parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il ne lui a pas encore imposé les mains. Il lui impose les mains, après aussi. Ce n'est pas obligé, mais dans ce cas, il fait. Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué là-dedans. Dans ce schéma, Jésus ne fait pas faire à cette femme une confession de tous ses péchés passés pour la délivrer de la chaîne satanique qui la retient. Il ne l'a pas prise sur le côté pour lui demander de confesser tous les péchés d'occultisme qu'elle aurait pu commettre ou que ses parents auraient pu commettre. Là aussi, il lui dit, c'est bon, c'est fait, on passe à autre chose. Et cette femme, dit-il, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Ouh! Un homme a compris que ce n'était pas obligé d'être compliqué. Il a compris que c'était une question de croire plus qu'une question de méthode. C'est le centenier qui, intercédant auprès de Jésus pour son serviteur mourant, il lui dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Mais dans sa déclaration, il apporte déjà la solution. Il a déjà la révélation de la solution dans son cœur, dans ses paroles. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. On le dit ça à l'Église catholique. Dis seulement une parole. Ça, c'est une bonne chose à répéter. Dis seulement une parole, Seigneur. Ne te prends pas la tête, Seigneur. Ne te déplace pas. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Dis seulement une parole, ça suffit. Tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi des Rois, tu es le Seigneur des Seigneurs. Juste un petit mot, Seigneur. Pas besoin de gros discours. Amen. Simplicité, une parole nous suffit, et ça doit marcher. Moi j'aime beaucoup le passage de Deutéronome 30, les versets 11 à 14, où Dieu nous dit que la solution à nos problèmes, la puissance pour libérer le salut, n'est pas aussi compliquée que l'on peut l'imaginer parfois. Regardez, il nous dit, « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. » Donc déjà, Dieu nous dit, c'est à ton niveau. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, c'est à ton niveau. Donc, c'est pas loin de toi, c'est pas inatteignable, c'est à ton niveau. Et les versets continuent. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Dans d'autres termes, ce n'est pas un système de méthode compliquée, nous, des dieux. Ce n'est pas toi qui dois aller au ciel pour que Dieu t'exauce enfin. Et on continue. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Dans d'autres termes, tu n'as pas besoin de courir tous les séminaires, d'aller aux États-Unis ou chez Yonggi Cho en Corée pour saisir ta bénédiction. Amen. Parce que sous l'Ancien Testament, il fallait aller au temple parce que la présence de Dieu résidait dans un lieu. Sous la Nouvelle Alliance, le temple est venu habiter en nous. Donc, où que tu te trouves, ça peut devenir un lieu saint. Tu es au bistrot avec des frères, l'église est au bistrot. Et c'est à toi d'influencer l'ambiance dans le bistrot, c'est pas à toi de te mettre à boire 10 bières. Bon, prenez pas l'excuse pour partir au bistrot dès la fin de la réunion. Hein. Et les versets continuent, c'est une chose, au contraire, répétez après moi, au contraire. Donc Dieu, il veut qu'on comprenne qu'il est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Donc c'est tout le contraire. C'est là, tout près de toi. Ça ne peut pas être plus près, en fait, parce que c'est en toi. Le moyen pour libérer la puissance et la bénédiction de Dieu fait partie de toi, de moi. C'est dans notre bouche. Romains 18, qui se fait l'écho de ce passage de l'Ancien Testament, précise, au lieu de « c'est une chose », précise « la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur ». Cette chose qui est si près de toi, c'est la parole de Dieu lorsque tu sais la serrer dans ton cœur et la placer dans ta bouche. C'est-à-dire la confession de ta bouche en harmonie avec les réalités qu'elle professe. Alors revenons à prendre au sérieux la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Levez-vous tous les jours, vous ne regardez pas ces symptômes et vous dites, de toute façon, c'est en route hein, et je vais me lever un de ces jours, ça sera réglé cette histoire. Je ne m'occupe pas de ce que le diable me dit. Oui, je sens encore cette douleur. Oui, j'arrive pas encore à faire ça, mais je serre ta parole dans mon cœur et je la garde dans ma bouche. Alléluia. Jean nous relate la rencontre de Jésus avec la... C'est quoi ce truc là? Oui, avec la femme samaritaine. Et Jésus lui donne une parole de connaissance concernant le nombre d'hommes qu'elle a eu. Mais il ne semble pas ébranlé, vous savez, comme le sont certains chrétiens, un peu chic molle. Ils voient des gens que c'est des pécheurs, des prostituées qui leur parlent. Mon Dieu, elle a eu Saint Marie, Zou. Comment vous voulez que les gens prennent les chrétiens mous au sérieux? C'est pas viril. Le christianisme, c'est viril. Amen. C'est pas d'où Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Donnez-moi un christianisme viril. Alléluia. Jésus, il était viril. Hein? Michael, il a donné cet exemple cet après-midi. Quand à un moment donné, il a fallu taper du poing sur la table, il y est allé. Hein? Amen. Il ne lui a pas demandé à la femme samaritaine de se délier des liens d'âme, c'est à la mode en ce moment, qu'elle a pu contacter avec ses différents maris et éventuels amants. Alléluia. De même pour guérir des aveugles, des estropiés, délivrer des prostituées, des voleurs. Il est allé simplement. Revenons aux choses simples. Si on veut être biblique, revenons aux choses simples, parce que plus on les complique, plus notre foi va devoir passer par des sentiers compliqués. Quand elle arrive au bout, c'est une foi rabougrie. L'autre jour, quelqu'un me disait, pour qu'un réveil arrive ici, il faudra que la région se repente de ça et ça. Eh bien, si nous voulons toujours voir comment s'y est pris Jésus, il a libéré la région des Gadaréniens de l'oppression de démons qui habitaient un homme. Et qui, à partir de cet homme qui leur servait de maison et de base, on peut dire, pour soumettre toute la région, détruisait. Le plus gros cas de délivrance auquel Jésus est confronté dans l'Écriture est celui du Gadarénien. Il est habité par une légion de démons, ça peut être 2 000, 4 000, 6 000 démons, c'est pas mal. Et les gens de la région n'ont pas eu à se repentir de tout ce qui s'était passé dans cette région pour qu'un réveil ait lieu. Dans le cas du Gadarénien, c'est le seul cas extrême où l'esprit ne sort pas de suite. Il lui demande alors son nom qui correspond à son nombre et c'est fini. Mais c'est le seul cas qu'on a dans l'Écriture. De là à aller demander leur nom à tous les démons, à discuter avec eux, on a autre chose à faire. Sous la Nouvelle Alliance, c'est le pouvoir d'un homme plein de l'esprit qui fait basculer le cours des choses dans une région. Alléluia! Il vaut mieux prêcher la repentance pour l'Église que pour le monde. Amen. Il faut la prêcher pour le monde, on est bien d'accord. Mais on ne peut bien la prêcher au monde que quand on la vit, nous. Il y a tant de confusion dans l'identité des chrétiens qu'ils sont souvent tentés d'aller à la recherche de cette identité partout sauf en Christ. Mon identité est en Christ. Elle n'est pas dans le gars que je vois tous les matins en me levant dans la glace. J'ai du mal à croire que c'est un vaillant guerrier, que c'est un vaillant héros, alléluia. Et la Bible dit que je suis un vaillant guerrier, un vaillant héros. Alléluia, peut-être vous ne le voyez pas. Mais c'est comme ça. Et je suis en train de regarder à de merveilleuses créatures, de vaillants guerriers, de vaillantes guerrières, alléluia, de vaillants héros. Prenez tous les gens autour de vous au sérieux, ne les méprisez pas, amen. Vous avez des vaillants guerriers, mais qui sont dans... des contenants qui ne sont pas aussi glorieux. Tu te lèves le matin, salut à toi, vaillant héros. Parfois, on arrive, même au séminaire, on est là. Bon, alors, c'est nous qui allons changer la vie des gens. À la rigueur, tant qu'on le voit comme ça, on va rester humble. Hein. Le jour où on débarque, bon, poussez-vous, super serviteur, premier aveugle. Il vaut mieux être là, Seigneur. J'ai besoin de ta grâce. Alléluia. Qui a besoin de la grâce de Dieu, là? Faites-le plein de grâce, là, ce soir. Donc, mon identité est en Christ. Elle n'est pas dans ce que mes parents ont été ou ont fait. Elle n'est pas dans mon ministère. Elle n'est pas dans mon bâtiment. Elle n'est pas dans mon pays non plus. Beaucoup de nos amis, même canadiens, par exemple, soupirent continuellement après l'abandon de la France à une époque. Mais si on commence à se brancher là-dessus, vous imaginez, on va passer notre vie à essayer de rectifier des problèmes entre les nations, entre les villes, entre les peuples, entre les gens, entre les familles. Alléluia! Non, on devrait surtout se réunir pour déclarer que c'est réglé. Enfin, c'est comme ça que je comprends l'Écriture quand je la lis. Colossiens 2:10, vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En lui. Un ensemble d'enseignements bien intentionnés ont compliqué notre christianisme et nous ont souvent compliqué la vie. Et je termine, c'est l'onction qui brise le joug. La solution n'est pas de faire plus de choses pour que les jougs finissent par être brisés, mais d'avoir plus d'onction pour qu'ils soient brisés les jougs en faisant moins. Est-ce que vous me suivez? Dans notre objectif, si vous voulez travailler à quelque chose, au lieu de faire de l'introspection toute la journée, travaillez à faire venir plus d'onction. Et avoir plus d'onction sur votre vie. Parfois, il faut passer du temps dans la prière. Parfois, il faut jeûner aussi. Un chrétien doit être quelqu'un qui jeûne régulièrement. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire. Il y a un travail spirituel à faire. Mais parfois, on le fait dans la mauvaise direction, comme on l'a vu hier soir. L'onction augmente bibliquement lorsqu'on est uni. On est d'accord? Qu'on marche dans l'amour. Et que l'on croit d'une foi simple. Compris et jeûne régulièrement aussi, on peut le dire, l'ajouter. Je préfère donc insister sur l'unité, le bon état d'esprit, l'amour, la compassion, la foi, la prière et le jeûne même. Ces choses qui font augmenter l'onction plutôt que dans des méthodes à n'en plus finir. Donc, décompliquons-nous la vie. Et puis surtout, décompliquons-la aux autres. Amen. Souvent, on ne s'en sort pas, nous, avec nos propres problèmes, et on veut enseigner les gens. Le nombre de personnes qui veulent enseigner les autres, et quand tu vois leur propre vie, tu dis, disons, qu'est-ce que tu as à m'enseigner, mon vieux? Accordons facilement le pardon. Recevons facilement le pardon. Recevons simplement la parole de Dieu. Jacques 1,21. Aussi rejetant toute saleté, lui dit, et tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée à vous, en vous, et qui peut vous sauver. Et voyons Dieu agir. Amen. Ce soir, on va prier un moment. Venez, on lève nos mains.